à une époque où règne la confusion, où coule le sang, où on ordonne le désordre.
I am naked all the time. I am burning inside. I am a voice no one can hear. I am drifting for the years.
De l'intimité à la révolte, de l'enfance à la vieillesse, entre rire et larmes, la vie comme elle s'écrit. C'est tous les mois, dans Les Buissonnières, l'émission de la Maison de l'écriture de Bédarieux, présentée par Virginie Lounoni. Pour cette dernière émission avant les vacances d'été, c'est encore l'atelier du jeudi qui régale. L'atelier du jeudi, je le rappelle, est composé d'habitantes de Bédarieux et des environs qui se retrouvent le jeudi à 18h pour écrire à partir d'une proposition, ce qu'on appelle une ouverture d'écriture. Ouverture comme une fenêtre dont on ouvrirait les deux battants sur un paysage chaque fois différent. Aucune forme, aucune thématique n'est privilégiée. La proposition porte un jeudi sur un souvenir d'enfance, la semaine suivante sur le dialogue, la suivante je propose d'écrire à partir d'une photo, la semaine d'après sur la thématique de l'exil, cet exil intérieur que nous partageons tous, qui devrait ouvrir notre cœur et nos bras aux migrants que nous croisons et qui souvent enracine le désir d'écrire. Car nous sommes tous des exilés, écrit le poète palestinien Mahmoud Darwish dans un livre qu'il faut lire et relire, surtout aujourd'hui, « La Palestine comme métaphore », paru aux éditions Simbad, Actes Sud, en 1997. Car en fin de compte, écrivait-il déjà, « nous sommes tous des exilés. Moi et l'occupant, nous souffrons tous deux de l'exil. » Il est exilé en moi et je suis la victime de son exil. Sur cette planète, nous sommes tous voisins, tous exilés. La même destinée humaine nous attend et ce qui nous unit est le besoin de raconter l'histoire de cet exil. Ainsi chemine l'atelier du jeudi qui s'interrompt à la fin du mois de juin pour laisser place à des stages centrés sur la forme, comme le stage consacré à la nouvelle ou celui consacré à l'écriture fragmentaire. D'autres stages ouvrent l'écriture aux mutations contemporaines de notre civilisation, comme le stage intitulé « Parler aux pétunias » qui s'enracine dans la révélation collective que nous a imposée le Covid, révélation à laquelle malheureusement beaucoup d'humains, et singulièrement ceux qui accaparent le pouvoir, sont restés aveugles et sourds. Loin d'être les maîtres et possesseurs de la nature, nous appartenons aux vivants, nous formons tous une seule et même vie. Il faut bien sûr plus qu'un stage d'écriture pour renouer un dialogue rompu par des siècles de culture anthropocentrée, mais au moins, pendant quelques jours, nous nous consacrerons à la tâche de trouver un langage commun à tous les vivants et de parler aux pétunias. Ce qui n'est pas une mince affaire quand on considère l'extrême difficulté du dialogue entre les humains tout seuls, aux multiples embrouilles générées par les contresens, les faux sens, les lapsus, les erreurs d'interprétation entre humains, s'ajoute la sourde malignité des mots eux-mêmes qui n'en rate pas une pour nous troublé. Il paraît même qu'il s'en donne à cœur joie sous les couvertures des dictionnaires bien sûr. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Brigitte Nadal, fidèle compagne de l'atelier du jeudi, qui, avec l'aide de sa complice Mireille Dupuis, va vous raconter ça tout de suite.
Thank you. Cavale buissonnière. Quelles que soient les périodes, l'éditeur qui en propose un inventaire, les façons de les référencer, d'en rassembler les déclinaisons, les mots s'ennuient. Homologués par le sceau officiel de l'Académie, contenus dans les périmètres étroits de leur définition, retenus et ordonnancés dans d'austères dictionnaires, ils s'emmerdent. Dès vos lumières éteintes, ils bâillent, soupirent, s'interpellent, chuchotent entre eux des gauloiseries déplacées. Pour autant, ne les prenez pas pour des bleus d'internat. Il leur arrive régulièrement de mettre sur pied des projets d'évasion mémorables dont certains ont été relevés scrupuleusement par de grands noms de la littérature. Ces documents soigneusement archivés sont encore à disposition grâce au portail Gallica de notre immortelle et incommensurable Bibliothèque nationale de France.
Allons donc, j'ai piqué votre curiosité et vous voulez y voir de vos yeux. Vous vous glissez à pas d'heure, 5-6 fois l'an, vers vos rayonnages d'érudits, et parce que vous êtes assez vieille ou vieux pour en posséder un, vous le tirez vers vous, le posez sur la table, et vous l'ouvrez, votre Larousse dernière édition. Vous l'ouvrez d'un coup, comme ça vient, et une nuit, bingo, ils sont là, les mots. Pris dans les phares de votre regard, ils vous dévisagent aussi surpris que vous de l'intrusion nocturne. Dépenaillés, grimés, méconnaissables, ils se rajustent, se font une contenance. Puis très vite, découvert pour découvert, ils vous apostrophent, cabotinent sans vous quitter de l'œil, et parce qu'ils ont enfin décelé sur votre face l'amorce d'un sourire, ils se lancent dans des numéros de comiques troupiers avec des grimaces de magots jusqu'à s'abîmer dans des bouffonneries de pochards. Si vous voulez garder votre sérieux, votre raison et le peu de latin qu'il vous reste, refermez l'ouvrage illico, abandonnez la quête ou la vérif, replacez le volume là où il végète, recouvrez-le de son vernis de poussière, fermez la porte et allez vous recoucher.
Loin du littré, du moins dans l'esprit, ces mots-là ne veulent que vous entraîner dans le joyeux désordre d'une langue revisitée, travestie, loufoque ou dangereusement subversive. Dans quel but ? Pour le seul plaisir de la moquerie ou du bon mot. Vous vous êtes montré ? Tant pis pour vous. Vous êtes resté perplexe une seconde de trop ? Vous êtes donc complice. Les scélérats vous ont déjà enrôlé. Vous êtes leur ami, leur disciple, leur chose. Cependant, si la diablerie s'insinue en vous et vous pousse à les rejoindre dans leur débauche, ayez en tête que ces trublions-là peuvent sans souci résister à la sagesse jusqu'à l'aube. Mettez d'emblée une croix sur votre repos. Donc, vous avez ouvert la boîte à mots, et ce, vous leur avez montré l'issue et votre bobine. Ils en profitent. Les moins agiles se font la courte échelle, se ruent dans les marges, empoignent les bords de pages aussi effilées qu'épées d'académiciens sur le fascicule traitant de la commune. Une fois à l'air libre, ils déguerpissent, vouent à leur suite, vers des coins malfamés où ils s'échangent lettres et fluides, s'encanaillent aux zincs d'un argotier, trinquent avec un patoisan, font le bœuf avec un raptagore phocéen, un anarcho-dyslexique, un émigré slamophuge et autres sapiens réjouissants. Vous vous êtes averti. Ce n'est qu'à l'aube qu'exténué, titubant, ils s'en retournent vers leur prison capitonnée, bulant encore des inepties, cherchant leur couche, avant de se séparer, non sans bêlement d'ivrogne.
Dernier bruit de porte, de serrures et de clés, gloussement de fin de nouba, quelques-uns peinent à replacer un H aspiré, un E muet, une double consonne. L'accro ne rempile jamais sans oublier un de ses C. Un joli V réclame haut et fort un chapeau qu'il n'aura jamais. Dans le tic-tac étouffé des siècles, la fin de nuit reprend ses pages. Le silence referme doucement ses lourdes portes. Quelques derniers bonsoirs d'alcôve et les mots se rendorment dans la respiration rassurante et familière des feuilles dortoir.
Car les mots dorment beaucoup. Les plus vieux, plus longtemps. On en retrouve aînés multicentenaires passant sur la pointe du souffle d'agonie à trépas. De belles et douces morts s'embranlent le bas. Et les défunts vont encore profiter de l'intervalle décennal du Larousse. Tels de vieux acteurs de cinéma célèbres que l'on s'émeut de repérer encore dans tel ou tel autre film, décrépits mais faisant bonne figure jusqu'à leurs dernières apparitions d'estime, magnifiques déjà de leur imminent et tragique départ, prêts pour l'urgence d'un César d'honneur.
Car c'est bien tous les 10 ans chez Larousse que feu les mots sont déclarés bien éteints et que les obsèques collectives ont lieu. Une maigre assemblée de trolls en habit de cérémonie procède à l'appel des défunts et décide de leur dépouille. Le néant ou l'éternité, l'oubli ou la postérité, rien d'autre. Peuple Alzheimer, peuple superficiel et ingrat, rien d'autre qu'un froid listing sans lever de drapeau. À peine un encart dans le Figaro pour 3 apôtres amateurs de nécro. Rarement regret appuyé pour celui-là qui pouvait reverdir. Ceux qui firent grand usage dans un temps révolu, ou ceux qui renvoyaient à la postérité d'un penseur illustre, rejoignent les lumières d'une édition françoise, au seuil solennellement orné d'estampes et de lettrines alambiquées.
Le Père Lachaise du dictionnaire, en quelque sorte. Mais pour la plupart des trépassés, un cérémonial minimaliste, sans égard des services rendus. Hormis le bon roi Robert, qui conserve l'entièreté du savant patrimoine, beaucoup de mots chez les concurrents subissent à leur tour les réformes de la nouveauté. Jugés peu rentables, équivoques ou pernicieux, les mots boudés sont écartés. Nib est à dame. Certains subissent l'ablation d'une difficulté orthographique. Accusés de gâter la réussite scolaire de nos cancres adorés et, par ricochet, d'abandonner notre PISA entre le chauffage et la fenêtre, ils se voient amputés du signe superflu. C'était pourtant celui dont ils avaient hérité d'aïeux 10 fois occupés, 10 fois migrants. C'était ce particularisme, justement, qui le faisait intrigant, singulier, unique, leur grain de beauté à eux, leur prononcé laiteux ou leur phonation orientale. D'autres mots encore sont soudain condamnés à cause d'un bouleversement dans les mœurs, d'une moralité fluctuante, d'un emploi diffamant, d'un sens au relent de soufre.
Ceux-là s'en vont, d'autres s'en viennent. « Ils arrivent !» dirait le petit homme. Néologisme sapé dernier cri, lexique au sourire blanc titane, jargon de trader, de start-up, terminologie scientifique au revers de blouses immaculées, ces derniers ont la cote. Une armada de termes cliniques, les phyto, les poly, les stéléiques, des acronymes aussi, pantins lexicaux aux membres articulés par des vis, tout un défilé corrélé étroitement au siècle. Plus loin, clairsemé, en fin de cortège, peu pressé de pointer, des métissés de la dernière heure, des lève-tard, des décontractés du gland, des polémistes, des triviaux, des composés, des casse-bonbons, des objecteurs de conscience peu enclins à se coucher, fût-ce dans un dictionnaire, et pour le bien public.
Les mots ont le temps de rêver. Ils rêvent. et quand ils rêvent, ils rêvent d'un pouce ou d'un index tout en haut de leur page. Le remake d'E.T., version bibliophile, est à jamais gravé en eux. Un courant d'air d'abord, une brise délicieuse, puis une fine terminaison homo sapiens, un doigt tout entier, un pouce pour caler la page, et derrière, en embuscade, la main. Idéalement fine, longue et discrète. Plus rare, donc plus prisée, la menotte potelée, le battoir bûcheron. Doigts adultes, inégalement sûrs et déterminés, mais pleins d'égards pour le savant ouvrage, ou doigts irrésolus, approximatifs, poisseux, d'une enfance, celle-ci entraînant plusieurs pages à la fois, écornant, froissant, tout en soufflant sur la nomenclature rigoureusement ordonnancée, la brise légère et vivifiante d'une haleine de sucre.
Une main, une vraie. Une aux ongles coupés courts, taillée en ergot, peinturlurée, récurée, maculée encore du chantier interrompu. Une main grêlée, une main Parkinson, une main tremblante de vieille pianiste qui ne s'en remet toujours pas de sa dernière gnossienne. Une calleuse, une mondaine, une hypnotique, une main de kiné, une main qui pointe, hésite, sautille, s'enfuit, revient. Une maternelle, paternelle, fraternelle, une main qui transmet. Un doigt tessure, exigeant, pédagogue, une main qui marque la page, fait un pli, lutte à main nue contre l'ignorance. Une main tatouée, une main forte, menue, une main noire, une main à la pomme teintée au henné, une enfarinée, une main graisseuse, une main gauche, la droite étant mouillée. Main gantée, main conservatrice, restauratrice de fonds anciens, dans la pièce blanche où l'incunable fragile rend, malgré lui, sous le délicat palpé, un peu de lui en poudre d'os.
N'importe quelle main est la bienvenue. Main aux yeux de lynx, main au flair de chien truffié. Une voix se ferait entendre, une deuxième, car les mains qui cherchent dans un dico ont une parole, un souffle, un parfum, une haleine, une voix qui dit les mots, qui les épelle, les mâche, les murmure, les cite, les articule, fait entendre intelligiblement la définition, s'en réjouit, s'en étonne, s'en vante sur le ton de l'évidente exclamation de la savoir avant que de la lire. Quand il rêve, les mots ont le cœur qui bat fort, leur respiration s'accélère, le sens irrigue leurs plus obscures inflexions. Adieu réserve et discrétion, au plus crucial du rêve, pour attirer l'attention de la main visiteuse, les voilà qu'ils piaffent, trépignent, gonflent le torse, claquent du talon, et mon Dieu, leur émotion quand le doigt enfin sur eux se pose, l'enthousiasme sous l'index victorieux. L'instant de gloire est si rare.
D'autres voudraient mourir sur scène, eux voudraient mourir là, là sous cette empreinte humaine, sous l'extrémité effilée de l'ongle. Ils sont choisis. Le néant qui veut les engloutir peut bien t'attendre. Les voilà élus et donc vivants. Car le doigt, la main, la voix, le souffle, parfois la loupe, le crayon, l'odeur, la mèche de cheveux, le pan d'un foulard, l'éclat fugace et coloré d'un bracelet, tout fait corps et tout cela sur lui se penche. Sur lui et non sur son voisin. C'est bien lui qu'en équipage on vient ainsi chercher, c'est sa définition qu'on claironne, verbe substantif, adjectif, adverbe, auxiliaire de liaison. C'est son entrée que l'on salue parmi les presque 100 000 autres de la langue française, parce que c'est ce mot-là, et lui seul, qui aurait manqué à la grille de mots croisés, à la partie de Scrabble, à la rime poétique, à la compréhension de la phrase, du paragraphe, du texte, du fragment d'entendement du monde. Oui, ce fragment infinitésimal à l'intérieur duquel il manquait ce petit quelque chose pour faire sens.
Alors, si certains d'entre eux, à leur moment perdu, veulent se faire la belle, s'ils veulent se réinventer, se soulever, se défouler, soyez camarades, jouez le jeu, suivez-les le temps d'une nocturne buissonnière.
Abondance, fantasme de pauvre, ambition de classe moyenne, ordinaire des riches, soupir blasé des ultra-riches. Si vous voulez tuer votre chien, accusez-le de la rage. Si vous voulez enclencher une période de frustration économique, accusez le peuple de s'être trop complu dans l'abondance, fit le Premier ministre au tout jeune président. Jean de Mortefesse dans Nécropsie d'une République. Abondinance, pratique consistant à mal répartir volontairement des ressources afin de se garantir quelques soutiens.
Les avettes ou les abeilles, congrégation de nonnes reconnaissables à leurs bourdonnements incessants et ne se déplaçant qu'en nuées fébriles autour d'un seul pistil.
Mitardée, passer une grande partie de sa vie accumulée de courtes périodes de prison.
L'andulé, marcher sans avancer vraiment selon une trajectoire incertaine.
Moribond, sursaut déclenché par la douleur vive de la lame sur la nuque.
Pénitencier, ceinture de chasteté pour hommes, utilisée dans l'ancien temps afin de contrôler la démographie des tribus. Aujourd'hui, bagues électroniques placées autour de la verge des violeurs récidivistes. Seul le juge peut décider d'une mesure d'allègement provisoire de la peine.
Racorte. Complicité dans un mouvement commun. Ils lambinaient côte à côte sans désir de couvrir vraiment la distance, ne voulant retrouver que le plaisir de leurs pas racorte. Sereinement, l'un trébuchant à gauche, l'autre tirant à droite, l'âge les mettant sinon au même mouvement, du moins au même souffle, leur exhalaison de vieille armoire s'échappant comme d'une même bouche dans l'air printanier. Georges Galantour, à dernière promenade.
Tringlette, faire tringlette. Grossièreté financière, masturbation de groupe, souvent lors d'un conseil d'administration de fin d'exercice, tout en spéculant sur des investissements à rendement exceptionnellement juteux. Vermicelle, espèce commune de mille pattes minuscules, très appréciée des pondeuses et couveuses naines qui en jettent longtemps par poignée dans toutes les soupes. La disparition du vermicelle suit, hélas, la baisse des couvaisons.
C'est à la lettre V et sur ce vermicelle plein de nostalgie que Brigitte et Mireille ont choisi d'arrêter la lecture de cette cavale buissonnière. Si vous voulez la lire dans son intégralité, passez de temps en temps sur le blog de Brigitte où elle offre à tous, en accès libre et gratuitement, ses romans, nouvelles, poèmes et réflexions à l'adresse Brigitte Nadal, un seul mot en minuscule, brigittenadal.com. Nul doute que vous y trouverez des mots pour vous prendre par la main et vous entraîner dans leur cavale. Quant à moi, je vous souhaite un été riche de lecture, d'écriture, de création sonore et de musique. Pensez à parler aux pétunias et rendez-vous en septembre pour de nouvelles aventures de mots et d'idées à la Maison de l'écriture de Bédarieux.
À une époque où règne la confusion, où coule le sang, où on ordonne le désordre.
I am naked all the time. I am burning inside. am a voice no one can hear. I am drifting for the years.
Vous avez écouté Les Buissonnières, l'émission de la Maison de l'écriture de Bédarieux, que vous retrouvez le deuxième mardi et le deuxième dimanche du mois sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud.
Sorry for my mistakes. I'm taking.